Vous écoutez IDFM, il est midi.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie, quelle chance de vous retrouver sur IDFM, la radio du bien-être. C'est Christophe Médici avec vous pour un nouveau numéro de Latitude Positive. Et en ce samedi, j'ai envie avec vous d'aller explorer des territoires un peu inconnus, des territoires que certains experts vont découvrir pour nous. Et pour m'accompagner dans ce voyage, j'ai une immense chercheuse à ce niveau-là qui, je le souhaite, va nous donner ses éclairages. C'est Pascal Lafargue. Pascal Lafargue, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Mais de rien, vous êtes la bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir sur IDFM 98.0. Alors, pour vous présenter, après vous présenterez-vous, vous êtes à la fois médium, parapsychologue, vous êtes chercheuse, vous êtes auteur de nombreux livres. On va notamment parler d'un de vos derniers livres. Et vous êtes aussi, donc, je l'ai dit, conférencière professionnelle. Et Pascal, vous avez commis ce livre il y a quelques temps, là, il y a qu'une poignée d'années, dont le titre est 80, oui, L'entre-deux-vies révélées. Pascal, alors, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est l'entre-deux-vies?
Alors, afin de recontextualiser le titre de mon livre et pourquoi je m'y suis intéressée,
bien sûr.
C'est-à-dire, en fait, beaucoup de livres parlaient du contact avec les défunts, beaucoup de livres parlaient aussi des messages qu'on recevait des défunts. Et en fait, en tant que parapsychologue et chercheuse, je voulais comprendre l'itinéraire de l'âme, c'est-à-dire à partir du moment où l'âme décède jusqu'au moment où l'âme avant que l'âme se réincarne. Et pour cela, j'ai travaillé, expérimenté pendant 20 années, pendant lesquelles, grâce avec mes élèves aussi, où j'ai voulu comprendre étape par étape l'itinéraire de l'âme dans l'entre-deux-vies, c'est-à-dire toutes les étapes au moment de la mort jusqu'au moment où l'âme va venir se réincarner.
Alors, ça part d'un présupposé, hein, que certains vont cautionner, d'autres pas, puisque parmi nos auditeurs, il y a de tout.
Peu importe.
Oui, et c'est ça qui est intéressant, qu'il y aurait évidemment, après la mort terrestre, ce qui me convient complètement, mais d'autres pourraient avoir d'autres visions des choses, il y a quelque chose qui ne meurt pas, qu'on appelle l'âme, n'est-ce pas, et qui continue son voyage, n'est-ce
Absolument.
Pas
Absolument.
Voilà. Et d'ailleurs, dans le livre, on va le voir, on va égrener des différentes étapes dont vous nous parlez, qui vont jusqu'à la naissance d'après, hein. Et ça, c'est très clair. Donc, pour vous, à quel moment vous avez estimé, évalué que quelque chose ne mourrait pas, qui s'appelle l'âme?
À l'époque, j'étais... c'est une bonne question, parce qu'à l'époque, du coup, ça va permettre de mettre tout bien dans l'ordre. À l'époque, j'étais étudiante en parapsychologie. J'ai étudié la parapsychologie pendant 9 ans, et pendant 9 ans, je me suis fait tester sur mes capacités psy. J'ai travaillé essentiellement avec des scientifiques. Bien.
D'accord.
Et il se trouve qu'à cette période-là, je me rendais chez mes parents, je leur rendais visite, et il y avait une personne qui était présente, que je ne connaissais pas, une voisine qui était venue rendre visite à mes parents. Et tout au long de la conversation, à un moment donné, j'étais face à elle, comme ça, et à un moment donné, sur son côté droit, donc gauche pour moi, puisque j'étais face à elle, je vois une femme se matérialiser, se dessiner, et cette femme me regardait avec insistance en dodelinant un peu de la tête, et en même temps parlait dans l'oreille de la personne que j'avais en face de moi. Et là, devant ce que je voyais, dans une émotion très intense que je vivais parce que j'avais le cœur qui battait à tout rompre, j'entends des choses quand même, qu'on me parle. Et je demande donc à la personne l'autorisation qu'elle m'accorde. Et je lui dis, écoutez, voilà, il y a une femme à côté de vous. Elle est petite, de taille moyenne, elle est brune. Elle me dit qu'elle vous touche de très près. Son prénom est Agnès. Et j'ai déjà, rien que quand j'ai dit ça, Agnès, elle a fondu en larmes.
Elle a donc une grande émotion.
Elle a une grande émotion, mais ouais. Elle pleure, elle commence à pleurer. Ouais. Et j'ai dit, voilà, cette femme me dit qu'elle est morte d'une maladie rapide. Elle me parle d'un petit garçon dont le prénom commence par la lettre F. Et que ce serait important que vous repreniez contact avec ce petit garçon. Je fais très court, mais elle va me dire, après avoir repris ses esprits et son souffle, elle va me dire, Pascal, cette femme que vous venez de décrire, brune de taille moyenne, qui me touche de près, qui s'appelle Agnès, c'est ma sœur. Vous dites qu'elle est morte d'une maladie rapide, elle est morte d'une septicémie foudroyante.
Mon Dieu.
Et vous me parlez d'un petit garçon dont le prénom commence par la lettre F. Eh bien, effectivement, c'est son fils François.
Et ce qu'on entend dans votre histoire, là, c'est qu'il y a eu vraiment une implication. Pardonne-moi de vous couper, hein, Pascal, c'est passionnant, chers amis auditeurs. Hein. Quelqu'un nous explique ses implications. C'est comment elle s'est rendue compte de ce qu'elle avait à faire comme mission de vie. C'était ça, d'aller chercher ça. Et d'ailleurs, vous le dites dès le début du livre, vous êtes une spécialiste de la réincarnation.
Entre autres.
C'est-à-dire dire, alors pour les Béotiens, il y a des Béotiens qui nous écoutent parfois, pouvez-vous donner la définition de la réincarnation ?
Alors là, on passe sur la réincarnation, là, maintenant.
Oui.
Donc on change de sujet. On change de sujet.
C'est pas si loin quand même.
Alors oui, mais c'est vraiment un sujet très important. Alors vous l'évoquez, je vais quand même raccorder quelque chose.
Allez-y.
Quand on parle de réincarnation, on est obligé de connaître l'entre-deux-vie, car on ne peut pas dissocier le thème de la réincarnation de l'entre-deux-vie, puisque c'est intimement lié. La réincarnation, si je le fais basique, parce que sinon je l'aborderais d'un niveau technique, et c'est pas une heure qui nous irait.
C'est la journée.
Là, il nous faudrait plusieurs émissions. C'est-à-dire, en fait, c'est la migration d'une âme d'un corps physique dans un autre corps physique. Alors là, je peux pas aller plus loin, parce que sinon je vais parler
évidemment,
beaucoup trop de choses.
Évidemment.
Mais ce qui est important, et dans mon cas c'est important, c'est-à-dire que je ne me contente pas de révéler. J'ai mis en place un protocole il y a des années et j'enquête et
oui,
je voyage
vous êtes
et je vais sur le terrain. Absolument. Et
oui.
Ce qui est important, alors je vous parle très vite de mon protocole si vous voulez.
Avec joie. Hein.
Alors
les
auditeurs vont être passionnés. Le protocole se passe en 5 étapes, c'est-à-dire la première étape est la période où je vais faire la révélation. Tout ce que je dis est enregistré. Pourquoi ? Parce que j'ai un débit rapide, on ne me coupe pas la parole et je parle pendant des heures. Donc, tout est enregistré sur des bandes son. On ne peut pas me dire que je ne l'ai pas dit ce jour-là ou je ne l'ai pas fait, c'est impossible.
Il y a un enregistrement.
Il y a un enregistrement qui fait froid.
Ça laisse des traces.
Absolument. Donc, une fois que cet enregistrement est fait, donc après, au bout de... Quand j'ai ma première petite sonnerie qui sonne, je sais qu'il y a déjà 2 heures qui s'est écoulée. Donc, des fois, je sors brutalement de mon corps physique, ça, je réintègre très vite.
Et vous mais arrivez c'est pas à pour... tenir ça, parce que ça doit être physiquement et psychiquement,
ah, mais
surtout
il faut
psychiquement.
Être il faut être très en forme physiquement.
C'est un travail de sportif de haut niveau.
J'ai fait du sport de haut niveau.
Vous avez fait quel sport?
J'ose même pas le dire, du football.
Et alors, les femmes footballeuses sont
j'ai fait
plus
du
plus
football
fort.
À une ouais. époque, en compétition. J'ai toujours fait du sport et beaucoup de sport. J'en fais toujours moins, mais j'en fais toujours maintenant. Ça veut dire en fait que... et d'ailleurs, votre remarque, elle est judicieuse, parce qu'en fait, j'ai toujours comparé la parapsychologie à un sport de haut niveau.
C'est-à-dire, ah oui, c'est
en fait,
ouais.
Si on n'est pas, on n'a pas une bonne santé physique, on ne peut pas tenir. C'est impossible,
pas, ouais.
Parce que c'est quand même des concentrations de 3 heures. Donc, et c'est pas la plus longue que j'ai faite. Hein. Donc, autant vous dire que c'est presque inhumain. Quand je pense à ça, c'est presque inhumain. Bref, revenons au protocole.
Oui, le protocole.
Donc, là, au bout d'un moment, je vais... J'ai un cheveu qui m'agace.
On s'en fiche, ça ne se voit pas, nous sommes à la radio.
Voilà. Au bout d'un moment, donc, je vais intégrer quand justement ma petite sonnette sonne une fois, mais surtout la deuxième ou la troisième fois, j'ai dit, bon, maintenant, il est temps que je baisse un peu ma fréquence pour que l'élève puisse communiquer avec moi. Bien. Et là, à chaud, je lui demandais de réagir. Bien, ça, c'est la première étape du protocole. Il y en a 5. La deuxième étape du protocole va être d'établir un tableau des résonances psychologiques. C'est-à-dire, et ça, il n'y a que l'élève qui peut le faire, c'est ce que j'ai révélé dans cette vie antérieure et ce que vous, dans cette vie-là, il vous semble correspondre en termes de... sur les plans personnels, professionnels, relationnels, psychiques, physiques, psychologiques, événementiels, traumatismes, bref, je mets tout en exergue. Et ça, seul l'élève peut le faire. La troisième étape du protocole est de commencer l'enquête. Alors, comment fait-on ? À partir du moment où, dans la partie 1, j'aurais eu des noms, des prénoms, des dates, des lieux, des noms de rues, de villes, de faubourgs, des périodes historiques, eh bien ça, l'élève va dégager tout ça de la bande, en fait, et le retranscrire et extraire tout ça. Et avec ces éléments-là, eh bien, nous allons commencer une enquête. Pour cela, nous allons contacter les offices du tourisme, les syndicats d'initiative.
Ah, mais vous êtes vraiment comme des enquêteurs de police.
Mais complètement.
Vous allez partir sur les traces de...
Et
valider, vérifier, n'est-ce
alors,
pas, Pascal? C'est
voilà,
ça.
Voilà, syndicats ouais. d'initiative, offices et cercles historiques qui vont nous mettre en lien avec des historiens, des cercles historiques. On contacte sur place des spécialistes, peu importe les pays où je vais, mais des gens qui vont être potentiellement capables de nous donner des informations cohérentes.
Et vous êtes chercheuse dans tout ça. On voit bien, chers amis auditeurs, que Pascal Lafargue, même si son livre, on va avoir plusieurs chapitres, est vraiment passionnant. Je vous conseille d'aller voir. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que elle est éditée dans une maison d'édition qui m'est chère, puisque moi aussi, c'est une maison d'édition dans laquelle je vais éditer des livres. Ça s'appelle les éditions Lanor. Et c'est une très, très bonne maison d'édition. Son livre s'appelle L'entre-deux-vies révélée. Je vais vous proposer de passer une petite page musicale et on va finir les protocoles. Et on va attaquer sur d'autres chapitres parce que, vraiment, restez avec nous sur 98.0. Nous allons voyager et faire un sacré voyage avec Pascal Lafargue. Restez avec nous.
Oh, le vol. Petite aile, va-t'en loin, va-t'en sereine, qu'ici rien ne te retienne. Rejoins le ciel et les terres, laisse-nous, laisse la terre, quitte manteau de misère, change d'univers. Petite sœur, vole mon ange, ma douleur, quitte ton corps et nous laisse, qu'enfin ta souffrance cesse. Va rejoindre l'autre rive, celle des fleurs et des rives, celle que tu voulais tant, ta vie d'enfant.
Chef-d'œuvre, chanté par Céline Dion, on lui fait un petit coucou au passage, vole, vole. Et oui, on décolle avec Pascal Lafargue, et en même temps, c'est très aussi protocolaire, vous voyez qu'elle est aussi chercheuse. Vous êtes toujours sur IDFM, j'ai comme invité Pascal Lafargue, qui est à la fois médium et parapsychologue, qui nous parle aussi de son livre « L'entre-deux-vies révélées » aux éditions Lannan. Pascal, on en était au protocole, et je crois qu'il restait deux étapes.
Alors, nous allons pour la quatrième étape, donc qui, comme vous le constatez, toutes ces étapes se suivent les unes les autres. Et la quatrième étape, alors celle-là, je l'adore, parce qu'en fait, si l'élève le souhaite, eh bien, nous organisons une enquête, un voyage d'études, et nous allons sur le terrain. Pour moi, le fait d'aller sur le terrain mettez en avant deux faits précis. Le premier fait, c'est en étant en lien au lieu où plusieurs mois, un an ou deux ans avant, parce que le temps de monter un voyage, ça prend du temps, j'ai révélé certaines choses. Pour moi, était de dire, en étant sur les lieux que j'ai révélés il y a quelques mois ou un an, ça va me permettre peut-être d'obtenir encore plus d'informations dites paragnostiques.
C'est quoi paragnostique ?
Paragnostique, c'est-à-dire, en fin de compte, où les messages m'arrivent en clairaudience, clairvoyance, et même je suis dans des scènes, c'est-à-dire obtenir des informations complémentaires.
D'accord.
Bien. Et le deuxième aspect était de me dire que la personne, en lien au lieu où elle a vécu karmiquement dans sa vie antérieure, peut-être qu'elle aussi peut éprouver aussi des émotions et des sensations. Jusque-là, je ne m'étais pas trompée. Mais ce que je n'avais pas soupçonné une seule seconde, c'est qu'il y avait un troisième aspect. Et celui-là, il défie l'entendement. Ça veut dire que peu importe le pays où je me trouve, les gens que je vais rencontrer, non seulement vont être liés à mon enquête, mais vont parfois nous faire la révélation de qu'ils sont la réincarnation qui n'est qu'un proche de la personne pour qui je mène l'enquête. Je peux vous donner un exemple,
allez-y,
si vous voulez.
Pour les auditeurs, c'est
important. C'est une enquête, parce que tout ce que je dis, et c'est là ma force, je peux le prouver. Je n'ai aucun problème avec ça. Je suis en Bretagne, dans une ville de Bretagne, où j'enquête sur une femme qui n'est autre que la réincarnation de Judith Gauthier, la fille de Théophile Gauthier. Et bien sûr, l'enquête nous permet aussi d'obtenir des informations concrètes et cohérentes que je vais aller chercher, que nous allons aller chercher. Et donc, quand j'ai un faisceau d'indices qui vraiment... Déjà, le tableau, rappelez-vous, en étape 2 des résonances psychologiques, met largement en avant ce genre de considération. Eh bien donc, pour cela, je vais prendre rendez-vous avec le conservateur du musée de la ville. Et puis, un autre homme dans lequel Judith a vécu. Bien. J'arrive au musée. Et là, le musée était fermé pour cause de réparation. Il y avait des travaux. Et le personnel présent me dit, écoutez, le conservateur va arriver, patientez quelques instants. Nous attendons un quart d'heure, une demi-heure, une heure se passe, une heure et quart, toujours personne. Le personnel, un peu gêné, nous ouvre le musée. Donc, nous avons le musée rien que pour nous. Donc, on profite d'un moment extraordinaire.
Formidable, formidable.
Et au bout d'une heure et demie, 1h45, le conservateur arrive. Il me dit, Madame Lafargue, je suis désolée. Je prépare une grosse manifestation, je vous ai oublié, je n'ai pas vu le temps passer. Montez dans mon bureau. Je monte dans son bureau et là, il me dit, écoutez, j'ai une idée. Mieux que moi, une femme historienne qui écrit des livres pourrait vous renseigner sur la famille Gautier. Donc, il me donne deux numéros de téléphone, le numéro de cette femme à Paris et il me dit, elle a une maison ici, elle y vient de temps en temps, mais c'est surtout les vacances. Moi, qu'est-ce que je fais en sortant ? J'appelle la maison de la ville où je suis.
Bien sûr.
Ça ne répond pas. J'appelle donc à Paris. Un jeune homme décroche et me dit... Bonjour madame, je dis, pourrais-je parler à madame Intel? Il me dit, ah ben non, elle n'est pas là, elle est partie. Je fais, oui, mais elle rentre à quelle heure? Elle dit, mais elle rentre pas du tout. Je dis, comment ça, elle rentre pas du tout? Elle me dit, oui, elle a pris la route et elle est partie pour la ville où j'étais. Je dis, attendez, vous êtes en train de me dire qu'elle est partie ce matin pour venir dans cette ville? Mais je suis dans cette ville. Ben, il me dit, appelez-la vers 5h, elle sera arrivée à la maison.
Formidable.
Non, mais je ne sais pas si vous voyez déjà la synchronicité de fait et le taux de potentiel.
Je pensais au mot des synchronicités jungiennes.
Le taux de probabilité que cette femme... alors que c'était mon dernier jour d'enquête.
Ce qui est intéressant, si vous voulez bien, Pascal, pour que les auditeurs soient vraiment à fond. Alors, d'abord, ce que je sens, et ce que vous, chers amis auditeurs, vous sentez, on sent une femme passionnée, engagée. On sent très bien que c'est votre mission de vie, que vous y croyez. Des pieds aux cheveux, que vous êtes investi, mais à un point incroyable dans ce que vous faites. Et j'aime ça. Et j'aime ça. Parce que je suis la même chose dans ma mission de vie à moi. On dirait que, à un moment donné, au détour des premières pages, attendez, je vais vous poser quelques questions si vous voulez bien. Vous dites, connaître le secret de la mort, beaucoup de gens l'ont voulu, on est d'accord, au fil des siècles. Et c'est vrai que c'est une question que j'avais envie de vous poser là-dessus. Vous dites, l'entre-deux-vie est un passage important pour l'âme. On est d'accord.
Oui, bien sûr.
L'entre-deux-vie est un passage important pour l'âme.
Oui.
Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'entre-deux-vie ? Cette préparation de l'âme, dites-vous, à une nouvelle incarnation. Est-ce que vous pouvez en parler à nos auditeurs ?
Oui, alors vous voulez pas que je termine ce qui s'est passé quand même, qui est très important.
Allez-y.
Pas
trop long. Hein.
Non, c'est pas trop long, mais vous allez voir, c'est important. La femme nous reçoit, parce qu'on a eu un échange téléphonique très positif, et je lui demande l'autorisation de l'enregistrer, et je lui pose des questions. Et je lui dis, écoutez, voilà, j'enquête sur Judith Gautier, etc. Et là, elle me dit, madame, vous ne me dites pas toute la vérité. Et je la regarde, je lui fais, vous croyez en la réincarnation ? Elle me fait tout à fait. Vous croyez en la vie après la mort, elle me fait complètement. Et là, je lui lâche la vérité que la personne qui est à côté de moi, pour laquelle, et pour le fait que j'enquête, parce qu'elle est la réincarnation de Judith Gautier. Et là, elle se lève, elle va mettre un chandail, parce qu'elle était transite froid, et elle me dit, Madame Lafargue, il y a 2 mois, j'étais une soirée à Paris, j'ai rencontré un médium, et il m'a dit que j'étais la réincarnation d'Estelle Gautier, la sœur de Judith Gautier, et que dans peu de temps, une femme viendrait m'en donner la confirmation.
Donc, tout était...
Et j'arrive 2 mois après en présence de sa sœur Judith Gautier. Voilà, et je voulais terminer comme ça parce que c'est tellement important.
Comme quoi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, comme disait Éluard. Et là, vous aviez rendez-vous toutes les deux. Alors maintenant, répondez à ma question.
Oui.
La préparation de l'âme à une nouvelle incarnation, Pascal. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe dans cet entre-deux-vies-là ? D'ailleurs, il y a plusieurs processus, vous le dites. Il y a plusieurs étapes.
Alors,
on va y venir.
Alors,
qu'est-ce qui se passe ?
Il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape 1, qui est l'étape de la décorporation, puisque vous me le demandez. C'est le moment où le double va quitter le corps physique. Il y a l'étape 2, celle de la montée. C'est le moment où l'âme va faire son ascension pour aller dans son plan de conscience.
Alors, on s'arrête 10 secondes sur cette étape 2,
oui.
Parce qu'elle n'est pas la même chez tout le monde, on est d'accord, hein. D'abord, vous avez décelé, vous faites une sorte de typologie des différentes morts. Je pense souvent, j'en parlais avec une amie, des morts brutales, des gens qui ne veulent pas mourir. D'ailleurs, chers amis auditeurs, on est complètement dans l'actualité parce qu'il y a une tragédie dans un pays, et pour ne pas le citer, c'est la Turquie en ce moment. Imaginez quand vous avez 8 ans, 15 ans, 16 ans, vous êtes en train de regarder la télé, ou 17 ans, ou 42 ans d'ailleurs, et qu'un séisme arrive et que votre immeuble s'écroule, il est clair que vous n'aviez pas envie de mourir ce jour-là. On est d'accord, et que vous aviez envie de vivre, vous aviez plein de projets, vous aviez très envie. Donc, cette mort brutale-là fait qu'à mon avis, vous le dites, l'âme, elle n'a pas tellement envie de monter très vite quand il arrive ça. On est d'accord.
Alors,
Alors, ça n'est pas simple d'avoir envie de monter c'est brutal comme
alors,
ça.
Alors, j'ai beaucoup travaillé hein, pendant 30 ans. Hein, donc,
ça, on le sait, voilà. C'est votre expertise qui nous intéresse.
Mais quand, dans le cas d'une mort brutale, par exemple, il faut savoir que le double va être expulsé extrêmement rapidement du corps physique. C'est-à-dire que dans le cas d'une mort brutale, le double, bam, est expulsé tout de suite du corps physique.
Qu'est-ce que vous appelez
double
pour nos auditeurs ?
Ça veut dire que le double, c'est toute cette matière bioplasmique qui est en nous et qui nous entoure. Ça inclut
c'est nos corps, tout le corps éthérique,
l'aura, le corps subtil de l'après-vie, l'âme, tout ça. C'est toute cette énergie qui est en nous, qui est invisible pour la plupart des gens, mais qui... pour autant existe et est là,
sûr,
hein, et scientifiquement c'est prouvé, hein, puisque je ne rentre pas dans certaines recherches scientifiques, mais on sait que c'est prouvé, et bien c'est toute cette énergie bioplasmique qui fera donc de l'âme le défunt plus tard, hein, et par lequel cette
ça
matérialisation...
Ah ben, mais est-ce qu'elle veut monter?
Alors,
ça, le problème.
Alors là c'est autre chose. Dans le cas d'une mort brutale, le double est expulsé rapidement, mais souvent l'âme, en fonction de la vie qu'elle a eue et de son évolution personnelle et spirituelle, peut errer très longtemps sur le lieu où elle a trouvé la mort. Ça, c'est une certitude. Mais pour cela, il faut tenir compte de la carte de visite, ce que j'appelle de la personne, c'est-à-dire comment a été à la personne dans sa vie, et quelques mois avant sa mort, et surtout, est-ce que cette personne était dans les conflits, en colère, en train de régler une problématique, ou alors, était-elle une personne épanouie, une personne, comment dirais-je, qui avait une hauteur spirituelle, une grandeur? Eh bien, c'est cet aspect-là qui fera, quoi qu'on le dise, la différence sur le fait d'être bloqué, de errer, ou d'évoluer, de monter.
Alors, ce qui est intéressant, c'est quand Pascal Lafargue parle de monter, dans son livre L'entre-deux-vies révélées, elle parle bien des différentiels, on dit d'ailleurs qu'on doit monter jusqu'au 7e ciel, je ne sais plus combien.
Oula, c'est un peu rapide là.
Oui, enfin bon, voilà, c'est pas mon domaine, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pense aussi à un film, pour être très prosaïque, dans lequel joue Bruce Willis. Il joue un psychiatre dans ce film, évidemment, c'est le 6e sens. Il est très amoureux de sa femme, il vit un couple vraiment harmonieux, très heureux ensemble. Et on sait très bien qu'il est shooté, tué par un psychopathe qui était un de ses anciens patients, tout le monde s'en rappelle. Et évidemment, lui, il veut pas mourir à ce moment-là. Il est fou amoureux de sa femme. Et pendant longtemps, il reste tellement bas qu'il voit les nouveaux amants de sa femme. Il voit sa femme malheureuse en deuil et tout. Et évidemment, on pense à ce film, Pascal Lafargue, hein, le 6e sens. Alors maintenant, venons-en. On va peut-être passer une petite page musicale. Restez avec nous, c'est passionnant. Vous allez voir, on est qu'au début du livre, hein, vraiment. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses. On va écouter un peu de musique et on retrouve Pascal Lafargue. Restez avec nous sur la radio du bien-être.
C'était le mois de février, ton ventre était bien rond. C'est vrai qu'on l'attendait, on voulait l'appeler Jason. Ce matin-là, il faisait froid, j'avais rendez-vous au studio. Et tout en soufflant sur mes doigts, je disais le petit sera un verso. Avoir un seul enfant de toi, ça faisait longtemps. Grandir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. Qu'il est ton sourire, ton regard, quand tu te lèves le matin, avec l'amour et tout l'espoir que j'ai quand tu me tiens la main. Et puis on m'a téléphoné, et moi bien sûr j'ai tout quitté. Les cœurs, les cuivres et la rythmique, je devenais papa, c'était magique. Puis le taxi m'a déposé devant la porte de la clinique. Et comme un fou, je suis monté. Garçon, fille, c'était critique. Avoir un seul enfant de toi, ça faisait longtemps que j'attendais. Le voir grandir auprès de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. Qu'il est ton sourire, tu te lèves le matin, avec l'amour et tout l'espoir que j'ai quand tu me tiens la main. On m'a tendu un paquet de linge dans lequel le petit homme dormait. Puis on m'a dit d'une voix étrange que c'était tout ce qui me restait. Tout le monde était très gentil et moi je ne comprenais pas. Dans son cœur il y avait la vie, mais dans le tien il faisait froid. Avoir un seul enfant de toi, ça faisait longtemps que j'attendais.
avec l'amour et tout l'espoir que j'ai quand tu me tiens la main.
Avoir un seul enfant de toi, nous disait-il, et oui, la mort d'une mère qui met au monde, chers amis auditeurs, c'est un chef-d'œuvre, hein, cette chanson. Et évidemment, voilà, elle est au cœur aussi de quelque chose, la vie, la mort, la renaissance, la naissance, de ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, ce samedi midi, avec Pascale Lafargue, une immense spécialiste et chercheuse dans ces domaines-là, très sérieuse, qui fait vraiment un travail... j'ai envie de dire de fourmi et pendant des années. Son livre aussi dont nous parlons s'appelle L'entre-deux-vie révélée aux éditions Lanor. Pascal, il y a une question qui me taraude. À un moment donné, vous dites que les enfants n'ont pas la même appréhension de la mort que les autres, des autres âges. Racontez-nous ça. Qu'est-ce que les enfants voient, enfin, pensent de la mort, Pascal Lafargue?
Si on reprend les recherches de certains spécialistes et de certains scientifiques, ils expliquent tous que les enfants n'ont pas la même... façon d'aborder la mort que l'adulte, parce que pour eux ils entendent un fait mais qui pour eux n'est pas forcément très concret. Ils le savent mais avec un recul. Et d'ailleurs, j'ai un de mes élèves qui est clown dans les hôpitaux pour les enfants,
les clowns médecins, très belle association.
Et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait.
C'est formidable.
Et j'ai beaucoup
discuté. Ils vont faire rire les enfants très malades,
voilà,
les enfants cancéreux et autres.
Et en fait, c'est plutôt eux qui vous donnent la pêche. C'est plutôt eux qui vous donnent, c'est-à-dire qui démystifient en fait leur notion de maladie, ils vont vous donner la pêche, etc. Mais, par exemple, pour avoir eu, à titre personnel, des expériences d'enfants, je pense notamment à cette jeune enfant que je n'ai jamais rencontrée physiquement, mais c'était une de mes élèves à l'époque, c'était sa petite fille. Et en fin de compte, cette petite fille, donc, elle naît avec une maladie assez grave, en fait. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle a une durée de vie qui est très limitée. Mais durant cette durée de vie très limitée, je crois qu'elle est décédée à 5 ou 6 ans, elle va délivrer à ses parents une somme de messages absolument incroyables sur l'amour, sur des liens, sur des choses fortes de la vie. Ça veut dire qu'elle va être là un petit peu comme un ange réconciliateur. Et pour le coup, c'est un enfant...
C'était sa mission de vie sur la
Terre.
C'était
sa mission de vie.
Ça devait durer 6 ans, mais c'était ça qu'elle avait amené.
C'est ça, exactement.
Alors vous pensez que, effectivement, quand quelqu'un meurt prématurément aux yeux d'une vie normale, on dit que chaque être humain, en moyenne, hein, c'est le titre de l'autobiographie de Maurice Genevoix, d'ailleurs, 30 000 jours, hein, une vie dure 30 000 jours, si l'espérance de vie, c'est 84 ans. En heure, c'est, chers méditants, ça fait un peu peur, mais 700 000 heures, donc chaque jour compte pour votre bonheur, carpe diem, carpe oram, comme disaient les Latins, parce qu'une vie, c'est 30 000 jours. Regardez l'autobiographie de Maurice Genevoix, mais il y en a qui meurent à 6 ans, comme disait Pascal. Et là, à un moment donné, vous dites, et vous l'avez dit aussi au début de l'émission, certains enfants se souviennent de certaines de leurs vies antérieures.
Alors, il y a des enfants qui spontanément, parce qu'en fait, ils ne sont pas parasités intellectuellement. Ils n'ont pas de parasitage intellectuel. Ils sont purs, quelque part. Et surtout, ils n'affabulent pas. Et moi, j'ai eu l'occasion de très jeune avec les enfants, de pouvoir communiquer avec eux, parler. Et ce qui est très étonnant, c'est la façon, de façon spontanée, comment ils évacuent des choses. Mais, moi, avant, tu n'étais pas ma maman, ou tu n'étais pas mon papa, ou mon papa, il avait une grande barbe, etc., etc. Donc, il y a des témoignages qui vont en ce sens. Moi, j'ai le cas avec un de mes enfants, hein, qui va me sortir à 5 ans quelque chose d'absolument incroyable. Et donc, j'ai contre-enquêté derrière. Or, à l'époque, c'était impossible qu'on l'ait entretenu sur ce sujet-là. Et elle me l'a lâché spontanément. Et souvent, les enfants, ils vous lâchent à une fois, deux fois. Et après, ils s'en souviennent plus, ils passent à autre chose. Donc, ils ont des réminiscences dites spontanées parce qu'ils ne sont pas encore pollués intellectuellement par l'analyse intellectuelle ou par l'envie de se faire plaisir, tout simplement, ou par l'envie de ci ou de mi, etc.
Il y a une petite métaphore très jolie qui n'a rien de scientifique, hein, qui n'est pas aussi profonde que ce que vous dites. On dit que ce qu'on a au-dessus des lèvres, là, cette petite roue là entre le nez et les lèvres, ce seraient les anges qui, au moment de notre naissance, nous ont fait faire chute
oui.
Par rapport... Et on a la trace de doigt d'un ange qui nous dit « Ne dis pas tout ce dont tu te souviens ». J'adore cette petite métaphore.
Oui.
Parce qu'elle est très mignonne, n'est-ce pas, Pascal Lafargue? Alors, à un moment donné, vous parlez des assassinats. Parfois, c'est des morts violentes aussi, hein, et dans la typologie des morts, parler de quelqu'un que j'admire énormément, et chers amis auditeurs, vous aussi, c'est Martin Luther King, le pasteur.
Hein, oui.
Et vous parlez de l'assassinat de Martin Luther King. Vous pouvez dire deux mots là-dessus, Pascal Lafargue?
En fait, dans l'assassinat de Martin Luther King, bon, je me suis intéressée à beaucoup de personnages.
Oui, j'ai vu dans votre livre.
Parallèlement à la réincarnation, je mène aussi des recherches historiques.
Oui,
et je travaille sur des pans d'histoire entiers.
Mm-hmm.
Et en fait, dans le cas de Martin Luther King, en fait, il y a, oui, quand je parle de lui, c'est que je parle parce qu'il y a différentes façons de mourir, comme vous venez de le dire très justement. Justement, il y a la mort brutale, je catégorise ça en 5 étapes.
Oui,
hein. Voilà, la mort lente, la mort attendue, la mort spontanée, la mort préméditée et
suicide,
la mort prémonitoire. Voilà. Et en fait, Martin Luther King, je l'ai mis dans... Alors, mort brutale, bien sûr, parce qu'il va prendre en plus plus une balle dans la gorge, hein, pour un communicant, quelqu'un qui parle, c'est quand même étonnant. Et en fait, alors ce serait beaucoup trop long ce que j'ai à dire sur Martin Luther King, parce que j'ai fait des
choses intéressantes sur Martin Luther King.
Mais en fait, alors si vous voulez que je vous dise des choses intéressantes, parce que du coup je voulais faire court, en fait c'est lors d'un contact avec un guide qui date du 11e siècle, avec qui j'ai communiqué, et d'ailleurs pour lequel je vais enquêter, qui porte un nom, un certain nom. Et en fait,
dites-nous son nom.
Saint-Jean de Jérusalem.
Saint-Jean de Jérusalem.
Et en fin de compte, il m'explique qu'en fait, il y a des âmes qui viennent par repentance et pour venir aussi travailler leur rédemption. Et en ce qui concerne Martin Luther, en ce qui concerne ce guide, à un moment donné, il va me dire, bah, par exemple, je lui dis, mais est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret? Il m'a dit, oui, je vais vous parler de l'âme de Martin Luther King. Car Martin Luther King, avant de s'incarner, donc on m'explique qu'est-ce qu'il a vécu, ce qu'il doit travailler, etc. Mais ça va être très long, donc je ne peux pas tout dire. Ce qu'il va me dire, c'est qu'en fait, je lui dis, mais comment il va connaître et il va savoir sa mission? Et en fait, il m'a dit, le guide me dit, il n'a pas besoin, lui, il le sait déjà dans son âme. Et en fait, l'indice par lequel il saura quelle est sa mission, c'est par le fait qu'il ait la peau de couleur noire, parce qu'on viendra le chercher. Or, quand on connaît l'histoire de Martin Luther King, ça commence par l'histoire de Rosa Parks, qui est dans un bus, qui ne veut pas laisser sa place à un homme de couleur noire, et qui, finalement, qui vont aller chercher pour ça? Bah, Martin Luther King, car c'est un pasteur, qui est un bel orateur, etc. Et c'est comme ça que Martin Luther King va prendre la cause et va partir, je dirais, bah, vous connaissez le trajet, je ne vais pas l'expliquer.
Bien sûr, non,
mais là où je voudrais terminer,
ouais,
c'est que
là-dessus,
le jour où il est décédé, le soir, il devait aller écouter des amis à lui qui jouaient du jazz. Donc c'était un orchestre de jazz. Et il avait dit à cet ami qui est chanteur de cet orchestre de jazz, il lui avait dit quelques heures avant de mourir, peux-tu chanter pour... J'en ai des frissons au moment où je vous le dis. Peux-tu chanter pour moi et de façon merveilleuse, please Lord, take my hand.
On sait aussi, c'est très beau ce que vous nous dites. Non, mais ce que vous nous dites aussi, c'est que Martin Luther King se savait en sursis. Vous savez, je pense vraiment, comme vous le savez, j'ai fait des études d'histoire pendant pas mal d'années et je m'intéresse aussi aux grands hommes. Et il est clair que Martin Luther King, comme beaucoup d'autres, sait qu'il était quelqu'un de dérangeant, mais nous, on le pense au sens noble du terme. Et il savait, ces gens-là savent qu'ils ont un contrat sur le dos. C'est qu'à un moment donné, ils sont... Vous savez, il y a une très belle phrase de Freud. Freud, chers amis auditeurs, disait toujours, le martyr, c'est le témoin de l'inconscient des autres. Quand on a une mission de vie très élevée, ce qui est le cas de certains hommes, et notamment le pasteur Martin Luther King, on est le témoin de l'inconscient de millions et de millions de gens. Et là, en plus, la cause noire aux États-Unis, excusez-moi, mais c'est encore d'actualité, quand on voit comment certains flics tuent des gens comme George Floyd ou encore l'autre il y a quelques semaines. Et le pire, chers amis auditeurs, c'est qu'il y a quelques semaines, c'était des flics noirs américains qui l'ont tué. Alors là, on atteint des sommets. Quand on me disait, mon grand-père, qui a été un des premiers résidents de France, disait qu'il avait vu des juifs dénoncer des juifs en 1940, qu'on a vu, on pense à cette phrase de l'académicien français Delacroix qui dit, l'homme est capable du meilleur comme du pire, et c'est parfois et souvent dans le pire qu'il est le meilleur. Parce que franchement, d'accord, le comportement des flics aux États-Unis vis-à-vis des blacks est juste plus qu'inhumain et barbare. Mais alors quand c'est des blacks flics qui tuent un black comme l'autre il y a deux semaines, qui hurlent maman parce qu'il est à 200 mètres de chez sa mère, il y a de quoi avoir un coup de gueule à la Gabin, qu'est-ce que vous en pensez, Pascal Lafargue?
C'est vrai qu'il y a une violence dans laquelle je ne veux pas rentrer.
C'est violent!
Voilà.
C'est d'une violence. Alors vous, à un moment donné, vous parlez que vous rentrez en communication avec les défunts. Et pour nos auditeurs, avant le passage suivant, dites-nous comment vous procédez un petit peu.
Alors, lorsque je dois communiquer avec un défunt, cela se passe de deux façons. La première... C'est-à-dire, c'est l'exemple que je citais en préambule au début de l'émission. Ça veut dire qu'en fait, je ne sollicite rien. Je vois un défunt se matérialiser très souvent à côté de la personne pour qui il se matérialise. Et là, le temps de la matérialisation, je vais me faire l'interprète de ce que le défunt a à me dire. Donc, ce défunt, s'il se matérialise, c'est qu'il a un message important à passer.
Vous l'appelez pas, il vient.
Non.
Vous le voyez.
Dans ce cas de figure-là, je constate sa présence.
Vous constatez sa présence.
Je constate sa présence. Et donc, je vais, le temps de ce qu'il a à me dire, me faire son interprète, le temps de la matérialisation de ce défunt. Et donc, je vais communiquer avec lui, le temps de la matérialisation.
Est-ce qu'il vous arrive de recevoir des gens qui voudraient communiquer avec leur enfant mort, ou leur père, ou leur mère?
Alors,
ça vous arrive ou pas?
Alors, attendez, je voulais finir ce que
Pardonnez-moi.
C'est qu'en fait, quand un défunt se matérialise, ce que je voulais dire et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'ai pu constater que des défunts pouvaient me parler dans des langues étrangères. J'en ai répertorié 15 à ce jour. Alors, ce phénomène s'appelle le phénomène de xénoglossie. Ça veut dire que je suis capable d'entendre phonétiquement un langage d'une langue que je ne connais pas dans cette vie.
Mais par contre, vous comprenez le sens?
Non, pas du tout. Je suis obligée de le faire traduire.
Ah, vous le
faites
traduire.
Je ne répète que phonétiquement ce que j'entends.
Ah, d'accord.
Voilà ce que je voulais dire. Mais c'est surprenant de justesse quand même à chaque fois. Et la deuxième façon de communiquer, donc là, j'y arrive, eh bien, c'est quand... Alors, un élève me donne une photo et je vais, par le principe de la psychométrie, c'est moi qui vais entrer en contact avec lui et... j'entre donc en contact avec lui.
Et on en parle dans quelques minutes, on passe une page musicale et on parle de ça, comment vous entrez en contact lorsque vous recevez une photo. À tout de suite, c'est passionnant, restez avec nous sur 98.0.
Qui ose dire qu'il peut m'apprendre les sentiments ou me montrer ce qu'il faut faire pour être grand? Qui peut changer ce que je porte dans mon sang? Qui a le droit de m'interdire d'être vivant? De quel côté se trouvent les bons ou les méchants? Leurs évangiles ont fait de moi un non-croyant. La m'apprends rien, je voulais juste un peu parler, choisir un train. La vie ne m'apprend rien, j'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin, prendre un chemin, mais je ne peux pas. Je dis qu'il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. Il croit peut-être.
Encore une chanson d'un homme qu'on admirait beaucoup et qui est mort brutalement, une mort brutale, Daniel Balavoine, qui chantait La vie ne m'apprend rien, qui est mort aussi brutalement un jour de quai des années 80, en plein désert, dans un hélicoptère. Vous êtes toujours avec Christophe Médici dans l'émission Latitude Positive sur 98.0 IDFM et mon invité. Passionnante et passionnée, qui est Pascal Lafargue, médium, parapsychologue, auteur notamment de ce livre « L'entre-deux-vie révélée ». Pascal Lafargue, vous nous disiez donc comment avec une photo pouvez entrer en contact. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ça, dites-nous.
Oui, alors ça c'est le deuxième aspect où je vais, par le principe de la psychométrie, communiquer avec un défunt. Alors si je ne connais pas le défunt, d'abord ce que je vais faire, il y a trois étapes fondamentales. La première étape, c'est qu'en fait je vais faire ce que j'appelle la carte de visite. J'ai besoin de faire un topo psychologique de la personne pour savoir que la personne avec qui je communique, c'est bien la bonne. Et puis je m'intéresse de savoir qu'est-ce qui s'est passé quelque temps avant sa mort et les conditions de la mort. Pour moi, pour une première, quand je connais pas le défunt, j'ai besoin de faire ça. Alors ça, je suis incapable de vous dire combien de temps ça dure, hein. Peut-être trois quarts d'heure, une heure, je ne sais pas. Et une fois que quand je suis concentrée, je ne vois pas la personne en face, j'ai les yeux cachés, le regard caché, je ne vois rien. Donc je baisse ma fréquence, je demande juste est-ce que ça va, et quand j'entends oui, Pascal, continuez. Et là, je me dédouble et je vais rejoindre le défunt dans l'entre-deux-vies. Et là, donc, je vais à sa rencontre.
Vous allez le rejoindre dans l'entre-deux-vies.
Oui. Je vais le rejoindre.
Votre double,
mon double. Ah mais je fais que ça. C'est-à-dire que je toutes mes concentrations, je me dédouble. Je vais dans les lieux. C'est-à-dire que les lieux que je décris, j'y suis. J'y suis. Et donc, je vais dans l'entre-deux-vies et je vais décrire l'environnement, où il est, ce qu'il fait, ce qu'il a à me dire. Et à partir
c'est
de là...
C'est courageux quand même, parce que faut revenir parfois.
Oui, c'est pour ça que je mets des sonnettes, parce que si je mets pas de sonnettes, ça me rappelle à l'ordre aussi.
Vous
n'avez
pas peur de la folie parfois?
Non, pourquoi?
Non,
ça, j'y ai jamais même pensé une seule seconde.
tant mieux.
J'y ai jamais pensé.
Ça peut en effrayer quelques-uns.
Mais vous savez, moi, je prends les choses avec une grande sérénité.
Non, je pense que vous êtes quelqu'un de très simple psychiquement et très équilibré. Parce que ça pourrait faire peur. Vous comprenez ce que je veux dire?
En tout cas, moi, à titre personnel, j'ai eu de l'émotion de voir des défunts parce que c'est bouleversant. Mais en ce qui me concerne,
ils
ne
font pas peur.
Mais pas du tout, j'ai jamais eu peur de quoi que ce soit.
Mais est-ce que vous comprenez que pour des gens comme nous qui sommes dans d'autres
secteurs,
qui avons d'autres talents et d'autres aptitudes,
oui. bah,
vous entendre quand connaître votre talent et tout, ça, c'est quelque chose qui est...
Oui,
ça
mais...
peut nous... sidéré quelque part. Je
mais
pense que certains des auditeurs de notre émission sont passionnés. Je pense qu'ils sont vraiment à l'écoute. Mais en même temps, bah voilà, vous êtes un phénomène.
En fait, ce
vous
que
êtes
je...
un phénomène, Pascal Lafargue.
Ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais décidé d'aller rejoindre. C'est que je l'ai constaté que à travers toutes mes concentrations.
Ça a été un appel, n'est-ce pas?
Ça a été un appel. Moi, j'ai pas dit je vais aller dans l'entre-deux-vies.
On entend
c'est
bien
que
ça.
Je constate que j'y suis. Mais grâce à Dieu, j'ai une vie équilibrée. Je, voilà,
je crois que vous avez besoin d'avoir une vie équilibrée pour les activités
mais,
que vous
okay,
faites.
Ok. Et puis j'ai besoin de rire aussi, de m'amuser.
En
contrepartie,
ouais, ouais.
Mais je vis des choses tellement fortes. Et encore, si vous saviez tout, je me dis heureusement que j'ai la capacité énergétique, morale de gérer. Mais je peux comprendre aussi. Mais comme je le dis, mon but, il n'est pas de convaincre. Hein. Je témoigne et des gens peuvent accompagner mes témoignages dans ce que je dis.
Est-ce que vous voulez bien nous parler d'un passage du livre où vous parlez, et ça c'est vraiment intéressant pour les auditeurs de notre émission, des nœuds karmiques. Expliciter à nos auditeurs ce qu'est un nœud karmique, Pascal Lafargue.
Alors oui, alors là, voilà. Alors,
oui, mais on parle de votre livre.
Oui, oui, oui.
C'est un
alors, un nœud karmique, c'est, comment dirais-je, une problématique que l'âme n'a non seulement pas réglée, mais qui se retrouve, qui trouve se répéter dans des incarnations.
Ça se répète à une vie
après
vie.
Ça veut dire, alors comment je peux affirmer ça? C'est simple. Je travaille avec mes élèves, je ne travaille d'ailleurs qu'avec mes élèves. Déjà, je préfère dire tout de suite que s'il y a des éditeurs qui nous entendent, ce n'est pas la peine de m'appeler pour un rendez-vous, je n'en donne pas. Moi, je suis une chercheuse, j'expérimente. Je ne travaille qu'avec mes élèves. Donc, je ne prends personne en consultation.
Vous ne faites pas une cote de consultation.
Non. Moi, je ne fais pas la course à ça. Je ne reçois. Non, je ne travaille qu'avec mes élèves. Donc, déjà, je préfère être honnête et le dire tout de suite. Et donc, mais plutôt, je préfère approfondir mes recherches.
C'est bien parce que alors, vous n'êtes pas businesswoman. Vous n'êtes pas dans les médias pour chercher des clients.
Non, pas du tout. Non. Moi, je suis là pour témoigner de mes travaux. Et donc, par contre, avec mes élèves, je travaille. Et depuis des années, à la demande de certaines de mes élèves, je vais travailler. Et notamment une de mes élèves il y a quelques années qui m'a dit « Pascal, est-ce que vous accepteriez de travailler sur l'itinéraire de mon âme? On partirait de l'époque du Christ jusqu'à maintenant. Et on pourrait travailler sur toutes mes incarnations de... » Et là, quand elle me demande ça, je dis « Mais attendez, votre projet, il est superbe. Sauf que vous avez conscience que ce que vous me demandez, on s'en colle pour des années. » Et elle me dit « C'est pas grave, mais si vous acceptez, on peut relever le défi. » Eh bien, j'ai dit « Ok, on va le faire. » Ça nous a pris 15 ans.
Et elle avait combien de vies depuis Jésus-Christ?
Alors, de mes travaux de 15 ans, 44.
44.
44. Et toutes ces vies ont suivi le protocole que j'ai expliqué tout à l'heure. Et je peux vous dire que c'est époustouflant. Mais grâce à ça, ce que j'ai fait, c'est exceptionnel. Ça ne s'est jamais fait. Personne n'a fait ça. C'est 15 ans de travail. Mais j'ai commencé à le faire avec d'autres de mes élèves. Alors, je suis pas autant avancée, hein. J'en ai 8, 10, 12. J'ai pas autant avancé. Mais grâce à ça. Et d'ailleurs, je suis en train, en ce moment, je me dis, je vais l'écrire le livre sur la théorie de la réincarnation. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en termes techniques. Eh bien, le nœud karmique, je vais pouvoir le voir. Qu'est-ce que c'est qu'un nœud karmique?
Oui.
Mais avant de vous expliquer un nœud karmique, il fallait que je vous explique
oui, mais
comment
c'est très
je
bien.
Suis
Qu'est-ce que
arrivée.
C'est un nœud karmique? Vous l'avez
Donc,
déjà dit un
c'est
peu.
Une problématique. C'est une problématique que l'on décèle dans une incarnation, mais qui se trouve répétée dans une autre vie antérieure. Ça veut dire que la personne est consciente d'un problème qui se répète, mais qui ne se guérit pas. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est là-dessus où on va travailler. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a compris qu'on a guéri.
D'accord.
Comprendre n'est pas guérir.
Oui, j'ai bien compris. Oui. Il y a une très belle phrase de Goethe qui dit aussi « Tant qu'on n'a pas compris son passé, nous sommes condamnés à le répéter.
Voilà, » je suis complètement, effectivement. Du
ça,
coup,
ça,
je la connaissais pas, celle-là. Mais
ah,
je
j'ai
le...
un petit côté Lucchini, faites attention à moi.
Oui, mais j'adore cette phrase. Alors, pour le coup, oui.
Elle est belle, hein?
Oui, très belle.
Elle est belle. À un moment donné, vous dites « Il n'y a toujours une bonne raison, c'est dans le livre « L'entre-deux-vies révélée » pour laquelle un défunt se manifeste. » Ici-bas,
oui,
à quelqu'un,
oui.
À vous, à d'autres, à des millions de gens. Alors, à un moment donné, vous dites, ça peut être l'avenue. Et moi, je suis très touché par ça. Vous parlez de l'importance des oiseaux, en l'occurrence, l'avenue d'un oiseau. À un moment donné, pour votre grand-mère ou une grand-mère, vous parlez de l'importance du rouge-gorge.
Oui,
qui arrive.
C'est ma mère.
Oui, racontez-nous, c'est passionnant.
Eh bien, en fait,
oiseau est psychoporteur, hein, je crois.
Oui.
Ils sont porteurs des âmes des
oui.
défunts.
Oui, alors je
pourquoi un oiseau, c'est important?
Les oiseaux, pour moi, sont des messagers.
Oui.
Et j'accorde, les oiseaux, pour moi, c'est vraiment très important. Ce sont des messagers.
Et là, ils chantent. Moi,
alors,
j'ai beaucoup de rouge-gorge qui viennent dans
alors,
mon jardin.
Alors, je vais vous raconter cette histoire qui est folle, pour le coup, qui est incroyable. J'aime pas employer ce mot-là, d'ailleurs, qui est incroyable. Nous sommes en cours à Paris avec mes élèves. Au huitième étage, c'est-à-dire au dernier étage d'un immeuble qui loue des salles pour des séminaires. Et à un moment donné, donc cette salle avait un petit balcon avec une terrasse qui donnait sur l'extérieur. Et à un moment donné, c'était en fin de matinée, j'entends tac, toc, toc à la vitre. Et je sais pas pourquoi, je regarde l'heure, il est 12h15. 12h15, retenez ça. Et l'oiseau qui tape comme ça, et donc il y a une élève qui était assise pas très loin de la porte-fenêtre, j'ai dit, écoutez, ouvrez la porte, parce que l'oiseau, il va se blesser. Elle ouvre la porte. Il y a là un rouge-gorge qui arrive, qui se met au centre, parce que les tables étaient en carré. Et le rouge-gorge va faire un par un chaque élève, et là je comprends que c'est ma maman qui l'envoie, il va regarder chaque élève un par un, il va se mettre sur mon sac de cours, il va passer devant moi pour se mettre sur le rebord de la chaise qui était à côté, et là je reçois tout un message de ma mère, de ma Mina. Et là je suis tellement troublée, quand le message est entendu, le rouge-gorge va quitter la pièce et on va refermer la fenêtre. Sauf que quand il a tapé à la vitre, il était 12h15. Or, je suis né un 15 décembre, 15-12.
Et moi, je suis très, très touché parce que, chers amis auditeurs, il faut que vous connaissiez la symbolique du rouge-gorge. Tous les oiseaux, moi j'adore les oiseaux, et je vais vous expliquer pour quelles raisons. D'ailleurs, parfois je préfère le rouge-gorge, qui est d'ailleurs l'animal totem de ma méthode. Parce que le rouge-gorge, chers amis auditeurs, c'est l'oiseau qui est le plus proche du Christ. Pourquoi ? Parce que le rouge-gorge, toutes les études symboliques le disent, vous savez le rouge qu'il a en bas, sur son pelage, on dit que le rouge-gorge est l'oiseau qui, lorsque le Christ était sur la croix, allait enlever les épines de la couronne d'épines du Christ et qu'une goutte du sang du Christ est venue sur son pelage.
C'est beau.
Et c'est la symbolique du rouge-gorge, Pascal Lafargue. Et c'est pour ça que c'est un oiseau parmi tant d'autres qui est christique. Pour le coup, sacrément christique, le rouge-gorge. Et c'est très beau. Et je crois effectivement, moi, souvent, les rouge-gorges, quand ils viennent me voir, ils chantent beaucoup, ils me parlent beaucoup. Et je sais que j'aimerais savoir, décoder ce que veut me dire papa, mon père, paix à son âme, ou ce que veut me dire une autre âme qui vient me dire là quelque chose ici-bas. Parfois, c'est dans une période où c'est pas simple, parce que c'est pas toujours un lit de rose, la vie. Hein, c'est pas le nirvana tous les jours. Et là, il vient et il me parle. Peut-être parce qu'on est aussi des initiés, peut-être parce qu'on est aussi, on a une grande mission de vie, on est habité, n'est-ce pas ? Autant que vous pouvez l'être. Et moi, je sais que ma mission de vie, elle m'a été donnée comme ça un soir de novembre 2006. Elle m'a été donnée dans ma tête, je l'ai entendu, alors je faisais tout autre chose. La seule fois où je suis allé là où Jaurès a été assassiné, au Café du Croissant. Et comme par hasard, j'avais comme pseudo Jaurès lors de la présidentielle. On m'appelait comme ça. Et le seul fois où Jaurès a été assassiné, j'entends le titre de ma mission de vie, que je suis allé protéger NPI à libelliser le lendemain. Et puis depuis, j'en ai fait 19 livres, 120 000 stagiaires en 12 ans. Bref, on va laisser passer à une page musicale. Vous savez, vous sentez comme on est sur des choses très subtiles et passionnantes. Vous êtes toujours avec Christophe Midici. Restez avec nous, on va continuer à parler de l'entre-deux-vie.
Jojo, voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain. Jojo, moi je t'entends rugir quelques chansons marines, où des Bretons devinent que Cinqa doit dormir tout au fond du brouillard. Six pieds sous terre, Jojo, tu chantes encore. Six pieds sous terre, tu n'es pas mort, Jojo. Ce soir, comme chaque soir, nous refaisons nos guerres. Tu reprends Saint-Nazaire, je refais l'Olympia au fond du cimetière. Jojo, nous parlons en silence d'une jeunesse vieille. Nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. Six pieds sous terre, Jojo, tu espères encore. Six pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, tu me donnes en riant des nouvelles d'en bas.
Et oui, l'immense Jacques Brel, paix à ton âme, mais vraiment, Jojo, six pieds sous terre, Jojo, tu frères encore. Il fait même un néologisme, il crée le verbe frérer. Vous êtes toujours avec Christophe Midici dans l'attitude positive, chers amis auditeurs, et j'ai cette chance d'avoir une invitée passionnante en ce mois de février, Pascal Lafargue, qui nous emporte entre deux vies. Je pensais à entre deux rives un peu, entre deux vies. dans le fameux méandre de qu'est-ce qui se passe quand on meurt et après la mort et quand on va renaître. Pascal, à un moment donné, vous parlez des sept plans de conscience. Est-ce qu'on pourrait développer ces sept plans de conscience pour nos auditeurs ?
Alors, ces sept plans de conscience, en fait, je vais les découvrir au fur et à mesure de mes expériences. À partir du moment où je communique avec un défunt, comme je vous le disais tout à l'heure, je prends compte aussi l'environnement, le lieu où il est. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des différences de fréquence, c'est-à-dire de luminosité, de son, d'odeur, d'ambiance, mais aussi de douleur, de souffrance ou de reconsidération, d'évolution, de travail, d'introspection. Eh bien, c'est tout ça qui va déterminer un plan de conscience. Un plan de conscience n'est pas une punition. Ça veut dire, vous avez été gentil, vous allez à tel plan, vous méchant. Non, ça n'a rien à voir. Un plan de conscience est la conséquence et le fruit de ce que vous avez été en tant qu'âme incarnée dans votre vie. Ça veut dire que c'est la résonance parfaite du plan de conscience dans lequel vous devez aller, car elle n'est que la résonance de votre évolution personnelle. Ni plus, ni moins.
Et donc, ça veut dire aussi que il y a des gens inconsciemment incompétents, on dit les gens de la formation continue, et il y a des gens qui vont vers plus de lucidité. Vous connaissez la phrase de René Char, la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Très jolie phrase, n'est-ce pas? Les poètes sont proches, avec, comme disait mon prof Edgar
les
Morin,
artistes, oui, les poètes
d'une archéraison. Et c'est pour ça qu'Edgar Morin développe ce concept de l'archéraison, qui fait que c'est holistique, c'est au-delà de la raison des scientifiques, cerveau gauche à fond, vous voyez ce que je veux dire? Et j'aime beaucoup cette phrase, parce que je pense que vous êtes, avec vos travaux, quelqu'un qui aidait à rendre plus lucide ce qui se passe peut-être sur d'autres plans. En quoi ça aide, ces sept plans de conscience, à un monsieur tout le monde dans sa vie?
En fait, j'essaie autant que faire se peut, avec beaucoup de modestie, d'apporter justement dans les contacts avec les défunts et surtout dans ce qu'ils peuvent faire aussi dans l'entre-deux-vie, puisque dans l'entre-deux-vie, quand l'âme va être vraiment pleinement, après avoir passé les trois étapes et les trois sous-étapes dont je parle dans le livre, il y a tout cet aspect où l'âme va continuer à travailler, à recevoir un enseignement.
Alors qu'est-ce qu'ils font là?
Ils travaillent. L'âme est dépossédée de l'aspect matériel, mais il y a des rencontres, il y a des groupes de travail, il y a des moments d'enseignement, il y a des moments d'initiation où l'âme...
Comment vous avez su ça?
Ben c'est en travaillant là-dessus que je l'ai découvert.
Il y a des groupes de travail, ils sont en formation d'âme. C'est drôle parce que la dernière fois que mon père m'a parlé via Astrid, je vous ai parlé que j'avais une amie médium, Astrid Ange Médium, j'étais au salon d'Agen où je donnais des conférences. Il est descendu quand même, mais il était monté très haut maintenant, il est mort en 2017 quand même, et il a dit « Je vais rester juste un petit moment parce que là j'ai beaucoup de travail. »
En fait,
« Je vais rester un petit moment parce que là j'ai beaucoup de travail. »
J'ai constaté qu'il y avait des âmes qui se retrouvaient par affinité. Par exemple, et c'est comme ça que j'ai pu, grâce à eux, recevoir certains messages. Par exemple, le monde de la technologie, ou le monde de la musique, ou le monde des artistes. C'est-à-dire qu'il y a des âmes qui se sont retrouvées par affinité pour continuer dans l'entre-deux-vie à progresser dans leur art, mais surtout aussi à retransmettre.
Je peux vous poser une question très implicationnelle. Ah. Vraiment, vous allez me donner, vous qui êtes une immense chercheuse de tout ça. Mon père est mort en 2017 et quelques mois après, je rencontre une jeune femme qui visiblement avait ces talents-là et je ne savais pas. Mais à un moment donné, je lui dis, mon père, machin. Et puis c'était six mois après, il me dit, il est là, ton père. Il est là, 10 ans, il est là sur ton canapé. Il est venu nous voir. Bon, donc il n'était pas monté bien haut. Et à un moment donné, il parle et elle me dit, tiens, il est avec Marcel. C'était quelque chose. Marcel, c'était un de ses anciens amis. Mais à ce moment-là, mon père lui dit. Elle avait 37 ans, cette jeune femme. La mienne, elle s'appelle, elle est d'origine berbère. Et elle n'en fait pas son métier, je veux dire. Elle s'en est rendue compte qu'elle avait ce talent-là. Et mon père a dit, je suis mort. Ah bon, je suis mort, je ne m'en rends pas compte. Vous pourriez nous dire, parce qu'à la fin, pourquoi mon père, quelques mois après, mon père ne savait pas complètement qu'il était décédé.
En fait, il m'est très difficile de reprendre des propos de quelqu'un dont je n'étais pas présente.
Non, mais est-ce que des gens peuvent ne pas être conscients d'être décédés?
Alors,
parce qu'ils sont morts dans leur sommeil, peut-être. Ils sont morts dans leur sommeil, donc ils dormaient.
Alors,
peut-être, c'est l'interprétation de Béotien que je me suis faite.
Oui, alors je ne peux pas me permettre de répondre à la place de quelqu'un, parce que je n'étais pas présente et je ne connais pas le dossier, donc je ne peux pas me permettre de m'impliquer. Ce que je peux dire en termes de connaissances, c'est que quand une âme ne prend pas conscience, souvent, c'est de l'ordre d'une âme errante. C'est-à-dire que c'est une âme qui refuse sa mort, qui refuse d'être partie. Et donc, du coup, c'est comme ça, on les appelle des âmes errantes parce qu'ils ne savent pas où ils sont. Ils ont refusé la conscientisation de leur mort. Parce que quand une âme décède, si c'est brutalement ou quoi ou qu'est-ce, elle va, à un moment donné, changer dans son plan de conscience. Elle ne va pas changer qui elle est profondément, mais elle va prendre conscience qu'elle n'est plus dans un plan de conscience. Or, si elle est dans le déni du changement de conscience, c'est que c'est une âme errante. C'est une âme qui refuse, qui refoule, qui ne veut pas voir sa mort.
Voilà. Et quand on parle des âmes sœurs, Pascal Lafargue, On rencontre un homme ou une femme, on tomberait de dingue amoureux, on a l'impression de se retrouver, parce que tout est dit dès le premier regard, le premier sourire.
Oui.
On dit, ah bah oui, c'est deux âmes sœurs.
Alors,
ou pour moi, l'amitié, alors moi, c'est pareil.
Moi, je suis pas aussi radicale que ça, en fait. Moi, vous savez, je suis très prudente hein, dans tout ça. C'est-à-dire, en fait, quand une rencontre se fait phare avec quelqu'un, se fait fort, c'est-à-dire les personnes se voient, se rencontrent ouais. et ont l'impression de s'être connues avant. Il peut y avoir deux hypothèses. La première hypothèse, elle est vraie. C'est-à-dire que ces deux âmes, dont ça a matché très vite, ont le sentiment de s'être connues dans une vie antérieure, ce qui potentiellement peut être vrai. Deuxièmement, il y a une autre hypothèse. Ça veut dire que, en fait, dans la rencontre, ce que dégage la personne et réciproquement va parler à notre âme, à notre inconscient. Et donc, son énergie nous fait remémorer quelque chose en termes karmiques, mais qui n'a pas de lien avec la personne. C'est ce qu'elle dégage et ce qu'elle véhicule qui parle à notre âme. Ça, c'est important. Et puis, dans les cas d'âmes sœurs, en fait, quand deux âmes se retrouvent, c'est qu'ils ont une appartenance commune, ça veut dire qu'ils vont se retrouver sur beaucoup de points de vue cohérents. Ça veut dire qu'il y a comme quelque chose qui va devenir extrêmement cohérent dans leur rencontre, dans leur discours, pour lequel ils vont se rendre compte au fur et à mesure d'une parfaite aptitude et adéquation entre ces deux personnes.
Vous parlez, merci, c'est passionnant. Merci de nous avoir éclairé à ce niveau-là. Vous parlez à un moment donné, au détour du livre, vers d'autres chapitres, de l'aide qu'on peut avoir grâce à des guides, grâce à des êtres de lumière. Bah, pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est ces guides? Qu'est-ce que c'est ces êtres de lumière? Pascal Lafargue.
Alors, j'ai catégorisé plusieurs possibilités. Ça veut dire qu'il y a ce que j'appelle dans un premier temps des âmes missionnées. Ce sont des âmes, ça peut être vous, moi, n'importe qui dans l'entre-deux-vie a largement dépassé la problématique pour laquelle elle travaille et donc va se proposer pour aller aider, secourir des âmes. Et puis après, vous avez le guide.
Des âmes en bas.
Des âmes dans l'entre-deux-vie.
Donc eux, c'est presque des médecins, c'est le SAMU de là-haut, quoi.
Alors, enfin, j'irai pas jusqu'à dire là, mais en tout cas, ils auront un rôle d'accompagnant.
Ils ont un rôle d'accompagnant. Bah, ils vont aider des âmes en souffrance, voilà. C'est ce qu'on croit comprendre.
Après, la notion du guide, lui, le guide, il va enseigner, il va transmettre, il va enseigner, il va être un guide. Et d'ailleurs, on trouve des équivalences aussi avec l'aspect terrestre, hein, parce que la table d'émeraude d'Hermès dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et réciproquement pour accomplir les miracles de l'univers.
Ça parle beaucoup. Ça.
Voilà. Et donc, les guides qui vont avoir un rôle d'enseignant, de transmission, d'enseignement, etc. Et, pour faire court, les êtres de lumière. Alors là, il y a vraiment, on est dans la guidance, là. On est vraiment dans un.
Mais êtres de lumière, est-ce que c'est les anges, les archanges? Est-ce que c'est notre ange gardien?
Alors après, il y a les archanges, il y a les anges, il y a effectivement.
Ça fait partie des êtres de lumière, ça.
Ça, oui. Et puis, il y a effectivement. Alors, c'est très vaste après dans les êtres de lumière.
Moi, je suis passionnée par l'angéologie, oui, parce qu'elle a
fait. Voilà. Moi, j'y vais de façon extrêmement modeste. Mais, il y a tout cet aspect qui d'ailleurs nous aide dans l'entre-deux-vie, mais nous aide aussi d'un point de vue terrestre. Vous savez, moi j'ai un souvenir, c'est très court, je suis en voiture, je suis sur l'autoroute, je sais que je suis toute seule dans ma voiture, je rentre de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, et je roule sur la dernière bande de gauche, donc assez vite, ce qui est autorisé, et là je ressens quelqu'un qui me pose la main sur mon épaule droite, et qui me dit « ralentis et décroche, ralentis et décroche ». Le réflexe a été de regarder dans le rétroviseur et de jeter un coup d'œil derrière. Il n'y avait personne dans ma voiture, ça va vite. Je ralentis, je décroche et je me mets sur la troisième puis la deuxième bande. Et là, sur la quatrième bande, un accident horrible se passe.
Mon Dieu.
Qui a touché mon épaule? Qui m'a dit de freiner, de ralentir? Moi, je le prends comme une présence divine, je ne peux pas dire autrement. Si j'étais restée, j'étais prise dans l'accident. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça qui m'ont marqué dans la vie. Il y a plein d'événements comme ça qui m'ont marqué.
Et je pense que ça peut arriver à tout le monde, vous êtes d'accord ou pas?
Mais ça peut arriver à tout le monde.
Je crois qu'il est temps de conclure, Pascal Lafargue. en tout cas, moi, je pense que vous devriez revenir parce que vous devriez faire un tome 2, un tome 3, un tome 4 d'émission. Je pense que, chers amis auditeurs, vous avez un peu plus une idée de ce que Pascal Lafargue appelle, comme dans le titre de son livre, l'entre-deux-vies. Qu'est-ce que c'est? Révélé aux éditions Lanor. Pascal, quels sont vos défis dans les jours, les mois et les années qui viennent? Qu'est-ce que vous avez envie de trouver encore? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Vous continuez vos recherches?
Je n'arrête pas. Conclusion. Là, je pars en enquête dès le mois d'avril et mai, je pars en enquête à l'étranger. Alors, il y a une partie recherche de vie antérieure, des enquêtes de dossiers, plus j'ai des frissons parce que je pense à quelque chose, plus des recherches historiques, mais aussi en collaboration avec des archéologues, des chercheurs, des anthropologues, des scientifiques, des médecins. Je peux vous dire que j'ai loin d'avoir terminé.
Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de travail. En tout cas, nous, on voudrait vous témoigner témoigner toute notre gratitude d'être passée par IDFM.
C'est moi qui vous remercie.
Vous avez été vraiment passionnante. On sent une femme dont c'est la mission de vie. Vous avez trouvé votre place. Vous êtes alignée, comme on dit. Et vraiment, on sait que vous allez nous offrir encore pas mal d'œuvres qui nous
beaucoup
sommes
de choses
béotiens dans ces domaines-là. Et effectivement, vraiment, on a été clair. Chers amis auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute de l'Attitude Positive. Je vous dis à dans quelques semaines pour un nouveau numéro. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, comme le disait Voltaire, plus les hommes sont éclairés, plus ils sont libres.